C'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une, Kiev libérée de l'occupation russe. Mais le départ de l'armée laisse un paysage dévasté et beaucoup de victimes civiles. Des corps sont abandonnés en pleine rue. On y revient après les autres titres, Christelle.
Dernier dimanche de campagne avant le premier tour. Beaucoup de meetings. Vous entendrez Nicolas Dupont-Aignan dire tout le mal qu'il pense du bilan d'Emmanuel Macron en matière de santé.
Et à 8h20, présidentielle également avec notre invité Philippe Poutou, candidat au nom du nouveau parti anticapitaliste. On attend vos questions à Philippe Poutou dès maintenant 01 45 24 7000 ou bien via l'application France Inter.
Dans ce journal aussi, ce début avril glacé qui fait cauchemarder les viticulteurs du Jura et le marathon de Paris, 45 000 coureurs auront 42 km pour se réchauffer.
France Inter.
La région de Kiev n'est plus sous l'emprise russe. Au 38e jour de guerre, les forces russes, si l'on en croit les autorités ukrainiennes, opèrent un retrait du nord pour mieux se concentrer sur l'est et le sud du pays. Une série d'explosions a d'ailleurs été entendue ce matin à Odessa sur la mer Noire. Et ce retrait, nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Benjamin Thaud ont pu le constater au nord-ouest de la capitale, dans des quartiers dévastés.
La région de Kiev est libérée de l'occupation russe de la capitale au centre du territoire, à Tchernobyl, au nord. Depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne avance village par village, une progression lente et prudente dans des zones dévastées. Selon les élus locaux, des corps jonchent les rues de Boutcha. C'est au nord-ouest de Kiev. Trois fosses communes ont été creusées pour inhumer 287 corps. Plus au sud, à Irpin, des obus de mortier sont encore plantés dans le macadam. Des tanks russes calcinés obstruent certaines voies. Une partie du marché a été pilonnée et la plupart des bâtiments ont été touchés. Il reste quelques habitants, des personnes âgées pour l'essentiel, qui n'ont pas pu ou voulu partir. Elles ont passé plus d'un mois enfermées dans des abris ou des caves et elles racontent l'enfer de combats incessants et violents qui se sont arrêtés il y a 4 jours.
Et cette dévastation, on la retrouve aussi à Mariupol, au sud du pays. 150 000 civils sont toujours prisonniers de cette ville en ruine. Le comité international de la Croix-Rouge espère pouvoir enfin évacuer des civils. Certains ont réussi à fuir par leurs propres moyens, au péril de leur vie. Arthur Gerbeau et Marie-Pierre Véro en ont rencontré, épuisés, à leur arrivée à Zaporijia.
Ils viennent d'arriver de Mariupol et se réchauffent d'un gobelet de thé. « Nous avons réussi », souffle Ivana, le visage pâle, emmitouflé dans sa doudoune. « On est vivants ». Son mari serre leur petite fille. Il nous montre les trous que les éclats d'obus ont fait dans leurs vêtements quand une partie de leur appartement a été soufflée.
C'était le jour de mon anniversaire, à 4 heures du matin. Ils ont commencé à lâcher des bombes sur notre immeuble et du 5 au 15 mars, c'était affreux. Ils ont lâché les bombes dans la cour, sur l'école maternelle. Notre appartement tremblait tout le temps. On habitait dans la salle de bain et le 15, un obus est tombé sur notre balcon. Tout a été détruit.
Mariupol n'est plus et nous avons tout perdu. Mais il y a pire, dit Denise.
Des gens qui étaient paralysés, qui ont brûlé vifs dans leur maison. Vous savez, on enterre les gens dans les cours. Nous, on en a enterré 3, c'est banal. On a vu les corps déchiquetés, personne ne pouvait les ramasser. Certains, on pouvait les recouvrir, mais d'autres, on ne pouvait rien faire. Ils étaient tellement déchiquetés.
Il raconte que dans la ville, on pille les appartements pour faire du troc et avoir à manger. Que les Russes ont voulu les emmener de force jusqu'en Russie, mais qu'ils ont réussi à leur échapper. Adelina, leur petite fille, s'amuse avec un agneau en plastique qu'elle vient de recevoir. Ivana sourit. Quand tout tremblait, nous lui disions que c'était des feux d'artifice et elle était contente. On lui a menti, mais que faire d'autre ? À Zaporijia, Arthur Gerbeau, Marie-Pierre Véro, France Inter.
Et peut-être une ouverture. Des consultations directes de paix sont possibles entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. D'après les négociateurs ukrainiens, la Russie accepte leurs propositions, sauf celles visant à négocier durant 15 ans le futur statut de la Crimée, annexée en 2014. L'entretien pourrait se tenir en Turquie, mais on ne sait ni où, ni quand.
Ce sera précisément dans une semaine, le premier tour de l'élection présidentielle et les candidats jettent donc leur dernière force dans la bataille.
Emmanuel Macron s'est offert 2h30 de show devant 35 000 militants. Il a soigné son hémisphère gauche en reprenant notamment la formule chère à l'extrême gauche, nos vies valent plus que leurs profits. Il a aussi rappelé qu'il faudrait travailler plus et plus longtemps. Ses opposants, eux, fustigent le bilan du président candidat. C'est le cas Julie Drouin, du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, en particulier sur la santé. D'abord sur Twitter, le candidat de Debout la France a raillé la politique de santé du chef de l'État. 17 300 lits fermés, saccage de l'hôpital, déserts médicaux. Et si Emmanuel Macron a fait applaudir les soignants par son public, Nicolas Dupont-Aignan se demande si ceux qui ont été exclus pour ne pas avoir été vaccinés étaient eux aussi concernés.
Ces soignants exclus qui sont plusieurs milliers, qui manquent tragiquement à l'hôpital, qui manquent et qui sont traités très mal puisqu'ils sont abandonnés, sans revenus, suspendus.
Nicolas Dupont-Aignan a ensuite participé à un rassemblement devant le ministère de la Santé pour dénoncer l'ensemble de la gestion de la crise sanitaire du gouvernement.
Moi, ce que je veux, c'est que les Français soient certains, en tout cas avec moi, ils le seront, d'abroger toute la loi d'urgence, qui est valable encore jusqu'au 31 juillet, de réintégrer les soignants exclus et de renforcer nos services de soins, lutter contre les déserts médicaux et les services de soins à l'hôpital.
Nicolas Dupont-Aignan qui a annoncé cette semaine qu'il comptait faire de Didier Raoult son ministre de la Santé s'il était élu.
Beaucoup de meetings aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, Anne Hidalgo au Cirque d'Hiver à Paris, Valérie Pécresse porte de Versailles, Nathalie Arthaud au Zénith et Jean Lassalle à Pau. La météo fait toujours un grand bond en arrière. Trois départements sont en vigilance neige verglas aujourd'hui, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, et des températures glaciales un peu partout. Les arboriculteurs et autres viticulteurs ont perdu 4 milliards d'euros l'an dernier. Ils redoutent évidemment le même scénario. C'est le cas dans le Jura, où les tonneaux de vin jaune millésime 2015 ont été percés hier. Rachel Sadodine.
Le problème, ça n'est pas tellement le gel. Ça arrive en avril dans le Jura. Non, là le souci, c'est que pendant 10 jours, il a fait très beau, trop même, avec des températures allant jusqu'à 22 degrés.
Nous apercevons le tout début des feuilles, donc ça veut dire que le bourgeon n'est plus protégé du gel en cas de vague de froid.
Bastien Beau cultive 25 hectares de vignes au Vernois près de Château-Chalon. Ce chaud froid pourrait lui faire perdre jusqu'à 20% de sa récolte.
À l'heure actuelle, ce sont vraiment les chardonnays et un petit peu le cépage Poulsard qui a commencé à pousser. Donc pour ce week-end, les plus gros soucis vont être portés sur ces cépages-là, chardonnay et Poulsard.
Encore plus au sud, après Lons-le-Saunier, Cédric Joly craint pour ces 6 hectares situés à Rotalier.
Le pire scénario, ça serait donc une gelée à moins 7 lundi matin et qui nous supprime pour l'instant, j'ai bien pour l'instant, aux environs de 25 à 30% de la récolte. Car l'année passée, on a déjà été touché très fortement, avec en moyenne sur le Jura, on va dire, plus de 70% de perte de récolte due au gel.
L'an dernier, le Jura a enregistré sa plus petite récolte en 30 ans. Cédric Joly l'affirme, les réserves sont au plus bas et un nouvel épisode de gel pourrait même pousser certains de ses collègues à mettre la clé sous la porte.
Rachel Sadodine de France Bleu Besançon. Le froid qui devrait créer une forte tension sur le réseau électrique demain matin. RTE recommande aux particuliers d'éviter de faire marcher leur électroménager. Faites plutôt tourner une machine aujourd'hui. Il y avait trop de neige à Saint-Etienne hier. Le match contre Marseille aura finalement lieu à 15h tout à l'heure. L'OM qui espère bien récupérer sa deuxième place en Ligue 1 que lui a subtilisé Rennes, auteur d'un nul à Nice, un partout. Eux, ils n'auront pas froid longtemps. Ils sont 45 000 à participer au marathon de Paris ce matin. Et si vous voulez suivre un proche pour l'encourager sur le parcours, la RATP vous propose plusieurs itinéraires. Mélanie Kuzelevitch.
Les 7 itinéraires proposés par la RATP sont calculés sur l'heure de départ de votre coureur. Arnaud, un trentenaire parisien, va soutenir son ami Alexis, qui vise les 3h30.
Moi aussi, je vais être mis au défi, en quelque sorte, puisque je vais me caler sur le temps que mon ami a prévu de faire.
Pour le suivre, il prend le métro à Concorde au départ de la course. 20 minutes plus tard, premier arrêt au kilomètre 9, dans le 12e arrondissement. Arnaud sort du métro, et là, il pourra acclamer et encourager son ami lors de son passage. Retour sur les rails, direction l'Orée du Bois de Vincennes, où là encore, il est sûr de pouvoir applaudir Alexis et ainsi de suite à 3 reprises jusqu'à l'arrivée du marathon à Porte Dauphine.
J'espère que le métro n'aura pas de retard et que je pourrai être au point de rendez-vous à l'heure dite. Ça met un peu la pression. Ça va être un peu un marathon en transport en commun pour moi.
Si Arnaud rate son ami à une étape, il pourra quand même en profiter pour explorer la capitale. Nicolas Martin est responsable des partenariats sportifs à la RATP.
La course, il y a à peu près 2/3 des participants qui sont soit provinciaux, soit étrangers. Donc le parcours, bien sûr, propose des sites iconiques de la ville de Paris.
Comme l'avenue Foch, le boulevard des Maréchaux ou encore le début du bois de Boulogne. Autre avantage, les parcours sont pensés pour vous laisser plus de chances d'apercevoir votre coureur. Aux stations choisies, il y aura par exemple beaucoup moins de monde qu'à Bastille.
Et c'est aussi l'occasion de découvrir Paris. Donc départ du marathon 7h55.
On y court. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps.
la météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et la neige perd du terrain, Jean-Michel Gonaski.
Effectivement, néanmoins, elle persiste encore en début de journée sur le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange. D'autre part, attention avec des températures souvent comprises ce matin entre 0 et moins 4 degrés, risque de chaussée glissante. En journée, il va encore faiblement neiger à basse altitude sur les Pyrénées, le nord des Alpes et le Massif central. Des Alpes du sud à la Corse, les averses seront fréquentes, parfois orageuses, avec de la neige à partir de 800 mètres. Autour de la Méditerranée, le vent soutenu vers 70 km à l'heure va dégager les littoraux du Languedoc et du Roussillon. Et puis sur le reste du pays, l'ambiance sera variablement ensoleillée, avec un risque d'ondées en particulier près de la Manche. Dans des températures en hausse cet après-midi sur la partie est, avec 5 à 8 prévus de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est, 11 à 14 sur le bassin méditerranéen, tandis que plus à l'ouest, les valeurs vont conserver à peu près le même niveau qu'hier.
Jean-Michel Golinski, Météo France.